5 novembre. Savoir quand s'abstenir de coopérer. Les réformateurs, politiques, sociaux et religieux, n'apporteront à l'homme que souffrance accrue, à moins qu'il ne comprenne les agissements de son propre esprit. C'est grâce à cette compréhension du mécanisme intégral de l'esprit que naît une révolution intérieure radicale. Et de cette révolution intérieure surgit une action de coopération vraie, qui n'est pas une coopération soumise à un modèle, à une autorité, à quelqu'un qui sait. Quand vous saurez coopérer, à cause justement de cette révolution intérieure, vous saurez aussi quand vous abstenir de coopérer. Chose très importante, peut-être la plus importante de toutes. Nous coopérons actuellement avec toute personne proposant une réforme, un changement, ce qui n'a pour effet que de perpétuer le conflit et la misère. Mais si nous réussissons à savoir en quoi consiste cet esprit de coopération né de la compréhension du mécanisme global de l'esprit, et au sein duquel on est libéré de l'ego, alors il devient possible de créer une civilisation nouvelle, un univers totalement différent, où il n'est plus de soif de possession, d'envie, ni de comparaison. Et il ne s'agit nullement de théorie, d'une utopie, mais de l'état effectif qui est celui d'un esprit qui, sans relâche, s'interroge et poursuit ce qui est sain et vrai. Novembre. La criminalité, pourquoi ? De deux choses l'une, ou il y a une révolte qui reste intérieure au cadre des structures de la société, ou il y a une révolution complète, celle-ci étant extérieure à la société. La révolution complète, extérieure à la société, c'est ce que j'appelle la révolution religieuse. Toute révolution qui n'est pas religieuse reste limitée au contexte social. Ce n'est donc en aucun cas une révolution. C'est la continuation modifiée des anciens schémas. Ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde entier, c'est, je crois, une révolte qui reste intérieure à la société, et cette révolte prend souvent le visage de ce qu'on appelle la criminalité. Ce genre de révolte est inéluctable tant que notre éducation ne se préoccupera, comme elle le fait aujourd'hui, que de préparer les jeunes à s'insérer dans la société et se bornera donc à leur apprendre à trouver un emploi, à gagner de l'argent et à aimer posséder, à vouloir toujours plus, à être conformiste. Voilà quel but se donne partout et comment fonctionne partout notre prétendue éducation. Elle enseigne aux jeunes le conformisme religieux, moral, économique. C'est pourquoi, naturellement, leur révolte n'a aucun sens, si ce n'est par rapport à la répression, aux réformes ou au contrôle ainsi rendu nécessaire. Ce type de révolte se restreint au cadre de la société. Elle n'a donc rien de créatif. Mais grâce à une éducation adéquate, nous pourrions peut-être faire éclore une compréhension différente en contribuant à libérer l'esprit de tout conditionnement, c'est-à-dire en encourageant les jeunes à être attentifs aux multiples influences qui conditionnent l'esprit et l'asservissent au conformisme. Novembre. Nombreux sont ceux qui prétendront vous montrer quel est le but de la vie et vous expliquer ce qu'en disent les Écritures. Des gens habiles continueront à attribuer à l'existence des buts inventés de toutes pièces. Tel groupe politique se proposera un but, tel groupe religieux un autre, et ainsi de suite, à l'infini. Quel but peut bien avoir votre vie alors que vous êtes vous-même en pleine confusion ? Lorsque je suis en proie à la confusion, si je vous demande « Quel est le but de votre existence ?» C'est parce que j'espère qu'à travers toute cette confusion, je vais trouver une réponse. Comment puis-je trouver une réponse véridique alors même que je suis plongé dans la confusion ? Est-ce que vous comprenez ? Si je suis dans la confusion, la réponse que je reçois ne peut être elle-même que confuse. Si j'ai l'esprit confus, perturbé, Si mon esprit manque d'harmonie, de tranquillité, toute réponse, quelle qu'elle soit, me parviendra à travers cet écran de confusion, d'angoisse et de peur. Par conséquent, la réponse sera pervertie. L'important n'est donc pas de demander « Quel est le but de la vie, la finalité de l'existence ?» mais de dissiper la confusion qui est en vous. C'est comme un aveugle qui demanderait « Qu'est-ce que la lumière ?» Si je lui explique ce qu'est la lumière, il écoutera en fonction de sa cécité, des ténèbres qui sont les siennes. Mais supposons qu'il puisse voir. Dans ce cas, jamais il ne demandera « Qu'est-ce que la lumière ?» puisque la lumière est là. De même, si vous savez clarifier cette confusion qui est en vous, alors vous découvrirez quelle est la finalité de l'existence. Vous n'aurez plus besoin de demander, vous n'aurez plus besoin de la chercher. La seule chose que vous ayez à faire, c'est vous libérer des causes qui sont responsables de la confusion. November 8. Vivre en ce monde de manière anonyme. N'est-il pas possible de vivre en ce monde sans ambition, en étant simplement ce que vous êtes? Si vous commencez à comprendre ce que vous êtes sans essayer d'y rien changer, alors ce que vous êtes fera l'objet d'une transformation. Je crois possible de vivre en ce monde de manière anonyme, en étant un parfait inconnu, ni célèbre, ni ambitieux, ni cruel. On peut mener une vie très heureuse quand on n'accorde aucune importance au moi, et cela participe aussi d'une éducation juste. Le monde entier idolâtre le succès. On entend parler d'histoires comme celle du jeune homme pauvre qui, à force de nuits d'études, a fini par devenir juge, ou celle du petit livreur de journaux devenu millionnaire. La glorification du succès est notre pain quotidien. L'obtention de tout succès important se double aussi d'une grande souffrance. Mais nous nous laissons le plus souvent happer par le désir de réussite, et le succès compte pour nous beaucoup plus que la compréhension et la dissolution de la souffrance. November 9. Plus qu'une heure à vivre. Si vous n'aviez plus qu'une heure à vivre, que feriez-vous? Ne prendriez-vous pas les mesures nécessaires pour régler les choses extérieures, vos affaires, votre testament, et ainsi de suite? Ne réuniriez-vous pas votre famille et vos amis pour leur demander pardon du mal que vous avez pu leur faire et leur pardonner le mal qu'ils auraient pu vous faire? Ne mourriez-vous pas totalement aux choses de l'esprit, aux désirs et à ce monde? Et si une telle chose est réalisable l'espace d'une heure, alors elle est également réalisable au fil des jours et des années qui restent peut-être encore. Essayez, et vous trouverez. November 10. Mourir chaque jour. Qu'est-ce que l'âge? Est-ce le nombre d'années que vous avez vécu? C'est en partie cela. Vous êtes né en telle année et vous avez à présent 15, 40 ou 60 ans. Votre corps vieillit, votre esprit aussi lorsqu'il se laisse encombrer par toutes les expériences, les misères et la lassitude de l'existence. Et un tel esprit ne peut jamais découvrir la vérité. L'esprit n'est capable de découverte que lorsqu'il est jeune, frais, innocent. Mais l'innocence n'est pas une question d'âge. Il n'y a pas que l'enfant qui soit innocent. Il peut d'ailleurs se faire qu'il ne le soit pas. C'est aussi le privilège de l'esprit qui sait vivre ses expériences sans en accumuler les sédiments. L'esprit doit faire des expériences, c'est inévitable. Il doit répondre à tout ce qui le sollicite. Le fleuve, l'animal malade, le cadavre que l'on emporte au lieu de crémation, les pauvres villageois portant leurs lourdes charges tout le long de la route, les tortures et les misères de l'existence. Sinon, il est déjà mort. mais il doit être capable de répondre sans être figé par l'expérience. Ce sont la tradition, l'accumulation des expériences, les cendres de la mémoire qui font que l'esprit vieillit. Mais l'esprit qui meurt chaque jour au souvenir d'hier, à toutes les joies et toutes les peines du passé, cet esprit-là est frais, innocent, il n'a pas d'âge. Et sans cette innocence, que vous ayez 10 ou 60 ans, jamais vous ne trouverez Dieu. novembre. La mort perçue en tant qu'état. Nous avons tous peur de mourir. Pour que cesse cette peur, nous devons entrer en contact avec la mort. Il ne s'agit pas d'un contact avec l'image que notre pensée se fait d'elle, mais d'une perception réelle de la mort en tant qu'état. Sinon, la peur n'en finira jamais, car c'est le mot « mort » qui suscite la peur, et nous ne voulons même pas en parler. Nous est-il possible, alors que nous sommes en bonne santé, normaux, capables de raisonnement lucide, de pensée objective, d'observation ? Nous est-il donc possible d'entrer en contact avec ce fait de manière totale ? L'organisme, en raison du traitement auquel il est soumis et de la maladie, va finalement mourir un jour. Si nous sommes sains de corps et d'esprit, nous avons l'envie de découvrir ce que signifie la mort. Ce n'est pas un désir morbide, car c'est peut-être en mourant que nous comprendrons ce qu'est la vie. La vie, telle qu'elle est en ce moment, est un supplice, une tourmente incessante, un nœud de contradiction, donc une source de conflit, de malheur, de confusion. La routine quotidienne du bureau, la répétition du plaisir avec les douleurs qui y sont liées, l'angoisse, les tâtonnements, l'incertitude, c'est ce que nous appelons « vivre ». Nous nous sommes accoutumés à ce genre de vie. Nous l'acceptons. Nous vieillissons en vivant ainsi et nous mourons. Pour découvrir ce qu'est la vie, de même que pour découvrir ce qu'est la mort, il faut entrer en contact avec la mort, c'est-à-dire mettre fin chaque jour à tout ce que nous avons connu. Il faut mettre fin aux images que nous avons élaborées, celles que nous nous sommes créées de nous-mêmes, de notre famille, de nos relations, l'image que nous avons édifiée à travers nos plaisirs, nos liens avec la société, nos liens avec toute chose. C'est précisément ce qui se passera à l'heure de notre mort.